Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour vous présenter cette nouvelle édition du journal de la Radio des Nations Unies. Avec en titre l'annonce officielle par l'Organisation mondiale de la santé de la fin de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée. Dans le dossier, nous reviendrons sur l'ouvrage collectif chapeauté par David Malone sur la place du Conseil de sécurité au XXIe siècle. Enfin, nous retrouverons Frédéric Bedos pour appréhender l'évolution des relations entre les hommes et les femmes. La Guinée revient de loin. 2 ans après le déclenchement de l'épidémie, Conakry est officiellement débarrassée d'Ebola. C'est dans ce pays que le virus est apparu fin 2013 avec la mort d'un bébé d'un an avant de se propager vers le Libéria et la Sierra Leone. La Guinée, berceau de la fièvre hémorragique, peut donc célébrer la fin d'une épidémie qui a tué plus de 2500 personnes sur son territoire. Les précisions de Tariq Jazarevitch, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, des propos recueillis par Alpha Diallo.
C'est définitivement un pas très important dans la lutte contre Ebola. On arrive au moment où tous les 3 pays ont réussi donc à rompre les chaînes de transmission et que vraiment on est sur la bonne voie dans la lutte contre Ebola.
Peut-on dire que la Guinée revient de loin?
Oui, tout à fait. Si vous vous rappelez, au début de cette épidémie d'Ebola, les systèmes de santé, non seulement en Guinée, mais aussi au Libéria et au Sierra Leone, ont été très faibles. Il n'y avait pas assez de travailleurs de santé. L'infrastructure était très fragile. Et surtout, c'était un fait nouveau de faire face à Ebola. Les travailleurs de santé, mais aussi la population, ne connaissaient pas le virus, ne savaient pas comment s'y prendre. Et c'est exactement la raison pour laquelle Ebola a pu faire ses ravages. Et donc, il fallait vraiment, dès le début, essayer d'éduquer la population, de vraiment expliquer comment se protéger, comment faire les enterrements sécurisés. Mais aussi, il fallait au même moment mettre en place les mesures nécessaires, apporter des capacités pour répondre à cette épidémie en termes de capacité de laboratoire, en termes d'expertise, en termes de formation, avoir des centres de traitement. Donc voilà, c'est parti de zéro vraiment. Et on est arrivé maintenant, 2 ans plus tard, à une situation où la Guinée, mais aussi Libéria et Sierra Leone sont bien équipés pour faire face à cette épidémie. Et voilà, les résultats sont là.
Avec ces notes d'optimisme, tout de même, est-ce la fin de la transmission du virus en Guinée? Voudrait dire que c'est la fin complète d'Ebola dans ces pays, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest?
Non. On sait maintenant que le virus persiste dans certaines zones corporelles des survivants et qu'il peut réapparaître dans le sang des survivants ou les survivants, à ce moment, redevient contagieux. Donc, on sait que pour une période de temps, le virus persiste chez les survivants et il est très important donc de maintenir la vigilance et de maintenir la capacité pour détecter et répondre à ces cas qui sont assez probables d'apparaître dans les mois qui suivent. Donc, ce n'est pas vraiment la fin d'Ebola, mais on est sur la bonne voie.
Maintenant que la Guinée et les autres pays touchés en Afrique de l'Ouest sont déclarés exempts d'Ebola, quelles seraient vos priorités pour 2016 et surtout par rapport aux 15 000 survivants d'Ebola?
C'est vraiment important d'apporter une assistance aux survivants d'Ebola, une assistance médicale parce qu'ils souffrent toujours des symptômes et des syndromes post-Ebola. Aussi, une assistance psychologique pour qu'ils soient réintégrés dans la société. Aussi, il faut continuer sur la voie de la recherche et développement des diagnostics, des traitements et des vaccins contre Ebola. Il faut aussi et surtout maintenant passer à une autre phase qui est de rebâtir les systèmes de santé de Guinée, de Sierra Leone et Libéria qui ont beaucoup souffert de cette épidémie de façon à ce qu'ils puissent répondre à une ou à des épidémies de ce type dans l'avenir.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Suite de notre série des rétrospectives de 2015 avec comme dossier aujourd'hui la question de la place du Conseil de sécurité au XXIe siècle. David Malone, sous-secrétaire général et recteur de l'Université des Nations Unies, a chapeauté la rédaction d'un vaste ouvrage publié il y a quelques semaines qui contient des dizaines d'analyses sur le processus de prise de décision de cet organe et sa capacité à répondre aux principaux défis sécuritaires auxquels le monde fait face au XXIe siècle. L'occasion pour Isabelle Dupuis de tendre son micro à David Malone pour en savoir plus sur les perspectives d'avenir du Conseil que l'on tente de réformer depuis plusieurs décennies.
En fait, ce livre succède à un autre recueil qui avait été publié en 2004 et qui, à travers une cinquantaine d'auteurs, livrait une analyse assez sophistiquée du Conseil de sécurité. Mais notre éditeur et plusieurs d'entre nous nous étions rendus compte, il y a environ 3 ans, qu'il y avait un début de retour des tensions entre les grandes puissances. Pas toutes les grandes puissances, mais il est certain que la montée de la Chine a provoqué certaines tensions, que les politiques russes et américaines provoquaient des tensions aussi, et que ces tensions commençaient à se répercuter au Conseil de sécurité. Évidemment, l'aventure en Libye, autorisée par le Conseil de sécurité, mais menée par l'OTAN, qui a dépassé de très loin les paramètres, en fait, de l'autorisation pour culminer en la mort de l'ancien président Kadhafi, ce qui n'avait pas du tout été prévu dans la résolution, a provoqué, je pense, un raidissement par certains États au Conseil de sécurité, pas seulement des membres permanents qui se sont dit « ces Occidentaux, ils sont fous ».
Beaucoup des analyses contenues dans ce livre portent sur le processus de prise de décision au sein du Conseil. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qui se passe derrière les murs ?
En fait, c'est très difficile de parler de ce qui se passe derrière les murs parce qu'il y a 2 niveaux de problèmes. Le premier niveau de problème, c'est qu'autrefois, les consultations informelles qui avaient lieu entre les États membres étaient réellement informelles. On se présentait sans discours adressé à la délégation d'en face, on avait des points de négociation et il y avait une certaine flexibilité dans cette enceinte. Aujourd'hui, il y a eu une espèce de raidissement, une espèce d'atrophie de réel dialogue dans ces processus informels qui étaient très précieux en fait, qui permettaient d'avancer vite sur un dossier et de sonder les limites dans les positions nationales. Deuxième niveau de problème, c'est que la transparence a toujours manqué dans les travaux du Conseil de sécurité, mais cette absence de transparence s'est amplifiée dans les années 90, qui étaient des années de grande activité pour le Conseil de sécurité, où en fait on s'est rendu compte que les délégations en question étaient tellement occupées qu'elles n'avaient pas le temps vraiment de s'adresser à autrui, aux Nations Unies, et que deuxièmement, il y avait une crainte de fuite et que donc même les membres du secrétariat qui travaillaient sur les dossiers du Conseil de sécurité devenaient de plus en plus secrets eux-mêmes. Donc, un secret malsain, à mon sens, puisque ce sont des dossiers internationaux bien connus, que l'autorité du Conseil de sécurité dépend beaucoup du consentement des autres États et que le consentement des autres États est de moins en moins évident face à un Conseil de sécurité qui est tout de même très secret.
Come, you masters of war. You that build the big guns.
Le Conseil risque-t-il de perdre de sa pertinence ou de la confiance qu'on lui octroie ?
Je pense qu'il y a une question de confiance et aussi de bienveillance des autres États membres. Après tout, ils ne sont que 15 au Conseil de sécurité et ils décident pour les autres. Les autres doivent se sentir à l'aise avec le Conseil décideur et ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Le Conseil, à la fois sur le fond mais beaucoup sur la forme, est assez contesté par les États membres sur la sélection du prochain secrétaire général, par exemple, sur des décisions ponctuelles, mais aussi sur ce manque de transparence, sur ce manque de consultation des autres États membres qui réellement irrite beaucoup. Évidemment, les membres permanents peuvent dire, écoutez, on s'en fiche, après tout, nous sommes permanents. Si les autres ne sont pas contents, c'est le même prix. Mais ce serait idiot parce que le consentement des autres États est essentiel au bon fonctionnement de l'organisation, puisque s'il y a défection des autres États membres face aux décisions du Conseil de sécurité, il ne reste rien de l'autorité du Conseil de sécurité. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience d'un mécontentement grandissant, pas encore dramatique, mais sérieux, avec les comportements du Conseil de sécurité, particulièrement les 5 membres permanents, mais en général, même les membres élus souvent deviennent peu transparents une fois qu'ils sont au Conseil et se comportent comme les vassaux des 5 permanents plutôt que les représentants des États. États qui les ont élus.
C'est l'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés.
La réforme du Conseil de sécurité est débattue maintenant depuis presque 20 ans, je crois. Où en est le processus et pensez-vous qu'il va aboutir un jour?
C'est un paradoxe parce qu'en fait, si ce processus n'aboutit pas sur un changement, et le changement peut prendre plusieurs formes, pourrait prendre la forme d'ajouter plusieurs sièges permanents avec ou sans veto et plusieurs sièges supplémentaires élus, ou pourrait prendre la forme d'un nouveau statut de siège élu, mais pour des périodes plus longues et immédiatement renouvelables, qui permettrait une semi-permanence de certains États émergents ou de grande envergure à l'échelle internationale. Pensez Brésil, Inde, Allemagne, Japon, par exemple. Donc ça ne culbute pas sur simplement une idée de réforme, mais les méthodes de travail du Conseil de sécurité doivent évoluer aussi. Le Conseil de sécurité est devenu assez arrogant. C'est nous le Conseil, le reste on s'en fiche. C'est pas sage, c'est possible, mais est-ce sage à long terme? L'ONU vieillit. L'ONU est beaucoup moins d'actualité qu'il l'était il y a 20 ans. Donc, le Conseil de sécurité doit réfléchir sur son renouveau avec une perspective de durer encore 30-40 ans comme la clé de voûte, finalement, de l'architecture de sécurité internationale. Rôle qu'elle a dans le droit international, mais rôle qui pourrait lui faire de plus en plus défaut dans les faits.
Voix de femme.
Et puis, suite de notre série de coups de cœur avec cette rediffusion de l'interview de Frédérique Bedos, la journaliste française de télévision qui a réalisé un documentaire des femmes et des hommes qu'elle est venue présenter en mars dernier à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Des propos recueillis par Christina Silvero.
Finalement, on se rend compte que le prix à payer est très très cher pour l'humanité entière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes ne trouvent pas véritablement leur place et qu'elles n'ont pas accès à une égalité de droits et de traitement, eh bien, les conséquences que ça crée sont, par exemple, sur la faim dans le monde. On se rend compte que pour tout ce qui peut permettre de faire une très bonne agriculture, il y a une discrimination de genre. Les femmes n'ont pas accès à toute la technologie, aux terres aussi, qui permettent de faire une agriculture efficace. De ce fait-là, il y a eu une projection qui a été faite et qui démontre que si on faisait en sorte que les femmes aient un accès égal aux hommes, eh bien, on sauverait plus de 100 millions de gens de la faim dans le monde. Donc tout de suite, quand on entend ce genre de choses, on comprend mieux ce que l'on veut dire par le fait que les conséquences sont bien au-delà simplement de la question de la femme.
Alors, vous vous êtes amenée non seulement à regarder, à examiner la question de l'évolution du féminisme dans un contexte, par exemple le contexte français, mais aussi à vous rendre en Inde, en Chine et en Afrique. Alors, qu'avez-vous constaté justement en Inde, en Chine et en Afrique et pourquoi ces trois régions?
Je voulais faire un film qui permette d'avoir une vision très globale et très impactante. Je pense que dans le film, on les traite de façon un peu différente. Par exemple, pour l'Inde, c'est à travers le regard d'une spécialiste de la sécurité internationale. Et donc, du coup, c'est son œil d'expert en sécurité internationale. Mais en même temps, elle a cet œil très particulier. Et du coup, elle montre que le fait qu'il y a un grand déséquilibre entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes en Inde, 37 millions d'hommes de plus que de femmes. De ce fait-là, eh bien, il y a une grande violence qui est exercée sur les femmes, puisque très difficile de trouver une femme pour chaque homme. Et donc, commencent à ce moment-là des vrais problèmes d'insécurité. Pareil pour la Chine, la femme chinoise Huang Rong témoigne, et elle vous parle, non seulement de la culture qui est confucéenne, et puis vous faites comme ça le parcours historique jusqu'à arriver aujourd'hui, et où elle vous dit bien que, bah oui, le gouvernement chinois fait quand même un beau travail de communication, mais dans les faits, il y a encore des progrès à faire.
Alors, vous avez aussi interviewé des femmes qui étaient dans des positions de pouvoir, je pense notamment à la PDG d'Artemis, qui a dit qu'en fait, à un moment donné, elle a constaté qu'on n'avait pas besoin de faire comme les hommes. Alors, ça veut dire quoi exactement?
Alors, c'est vrai que tout le domaine professionnel a été bâti par les hommes à la base. Et donc, quand les femmes, peu à peu, ont pu travailler, elles ont dû, quelque part, s'adapter à des codes masculins pour pour trouver leur place. Et si elles voulaient grimper dans les échelons, eh bien, quelque part, elles devaient endosser un vêtement masculin, on va dire, dans leur attitude, dans leur comportement. Or, ces codes sont en train de changer parce que, voilà, une nouvelle civilisation se met en place, notamment aussi parce que les hommes changent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ont des nouvelles aspirations de père, qui ont envie de s'occuper de leurs enfants, passer du temps avec eux et qui donc, du coup, passent plus de temps aussi dans la sphère familiale. Et quand eux vont retourner au travail, eh bien, ils viennent avec cette nouvelle tendresse, cette tendresse de père. Et donc, il y a une porosité qui est en train de se faire entre la sphère professionnelle et la sphère familiale privée.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.